On a toute une heure de radio et on commence avec Mathieu Bélanger du quotidien Le Droit. Salut Mathieu!
Salut Michel!
Écoute, quand on s'est parlé la semaine passée, nous autres, de notre sondage Le Droit Cogeco, on se disait, ouais, il y a pas mal d'indécis. Je regarde le sondage qui a été publié ce matin sur le site de Radio-Canada et on dit qu'à Gatineau, au niveau des intentions de vote, il y a 53 % d'indécis. Ou bien c'est du monde qui ne veulent rien savoir de la politique municipale, ou bien il y a des choses qui peuvent changer d'ici la date des élections, Mathieu. Là.
C'est vraiment la question à se poser, parce que dans les deux sondages, c'est vraiment ce qui ressort, c'est le nombre d'indécis. Nous, on était à un tiers des répondants qui étaient indécis. Là, le sondage CROP Radio-Canada de ce matin, c'est 53% d'indécis. Puis comme tu dis, Michel, est-ce que c'est des gens qui se demandent encore pour qui ils vont voter le 7 novembre, ou si c'est des gens qui en ont rien à battre de la politique municipale puis qu'on les dérange pendant ce sondage-là.
Peut-être que les sondages futurs qu'on fera, faudra dire pour qui vous avez l'intention de voter, puis aussi, est-ce que vous voterez?
Je pense que oui, parce que ça fait deux sondages qu'on fait en deux semaines. Puis, je veux dire, mon Marquis Bissonnette est en avance là, de 3 points de pourcentage dans notre sondage. Elle a une avance un peu plus importante dans le sondage de ce matin, là, CROP. Là. Madame Marquis Bissonnette est à 22%, puis France Bélisle à 12%. Mais encore là, le nombre d'indécis est tellement important que c'est des données qui... écoute, c'est un portrait, là, mais on peut pas se baser là-dessus pour savoir vraiment est-ce qu'il y a quelqu'un en avance.
Il y a tellement de possibilités que le résultat, dans le fond, il veut à peu près rien dire.
Puis écoute, si vraiment c'est des gens qui ne vont pas voter, si ces indécis-là, c'est des gens qui vont pas voter, et souviens-toi, aux dernières élections, c'est quoi le taux de pourcentage?
40%.
Était à 40%. Écoute, imagine si ça continue de baisser, parce que dans les dernières années, c'est ce qu'on vivait à Gatineau, c'est ce qu'on vit en politique municipale, là, malheureusement, mais c'est ce qu'on voyait à Gatineau, c'est une tendance à la baisse. Ben, si cette tendance-là se poursuit aujourd'hui, puis qu'on est à 35%, il y a quelque chose à rebrasser là. Le palier municipal est le palier le plus près des gens. Le déneigement, les poubelles, les piscines, les gens vont voter. Puis c'est bien correct là, que les gens aient voté au provincial, pour au fédéral, mais j'ai l'impression que les gens sont pas conscients à quel point les décisions qui se prennent au municipal ont des impacts au jour le jour dans leur vie.
Mathieu, ça revient au commentaire que j'ai fait hier là-dessus, justement. C'est que si vous n'allez pas voter, ben vos gueules après, là. Parce que dans le fond, vous ne votez pas, vous ne vous impliquez pas, mais si on vous augmente vos taxes, ou si on vous force à payer quelque chose, ou si on ne fait pas un tel projet qui ne fait pas votre affaire, ben c'est quoi votre droit de parole? Impliquez-vous. Je trouve que c'est tellement important, la politique municipale. S'il y a là un endroit où on peut influencer vraiment la décision, ben c'est probablement au municipal, beaucoup plus qu'au provincial puis au fédéral.
Tout à fait. Puis comme tu dis, là, les gens qui vont pas voter, ben finalement, se retrouvent complices de ce pourquoi ils vont chialer pendant les quatre prochaines années. Tout le monde a voté un peu. Là.
OK, on va clore ça tout de suite. Là. Marquis Bissonnette, 22. Bélisle, 12%. Jean-François Leblanc, 6. Jacques Lemay, 3. Et les autres, là... Voilà. Fait que, voilà.
Jean-François Leblanc, par exemple, qui est à 6%, donc... Ça, peut-être, c'est une autre indication qu'on retrouve dans les deux sondages. Là. Monsieur Leblanc est
c'est le troisième. C'est le troisième, oui.
Sa stratégie là, qu'il nous expliquait, nous, en rencontre éditoriale, là, il y a une semaine, là, d'attendre avant de déposer sa plateforme, Michel, c'était peut-être pas la stratégie à avoir en début de campagne, parce que ses deux adversaires, elles... sont vraiment en fait, il y a des communications presque tous les jours, ils présentent leur programme, différents pans de leur programme, que ce soit en environnement, que ce soit en termes de fiscalité, tout ça. M. Leblanc a fait une conférence de presse à date en début de semaine.
Puis t'as pas trop, on va se dire les vraies affaires, là, t'as suivi cette conférence-là, puis t'as pas trop compris là où il s'en allait non plus, là, parce que là, il annonce un gel de taxes, mais quand on lui demande la suite des événements après le gel, il est pas trop sûr non plus. C'était pas clair quand est-ce qu'elle allait aussi parler du cadre financier. C'est impressionnant, un gel de taxes, là, pour le contribuable qui va entendre ça, mais maintenant, il faut mettre de la viande autour de l'os, là.
On avait plus de questions que de réponses à la fin de ce point de presse-là. Parce que, comme tu dis, un gel de taxes, ça marque les esprits. Depuis la fusion municipale, il n'y a pas un candidat qui avait promis des gels de taxes à Gatineau. De mémoire, là, puis j'ai fait le tour un peu là, de collègues, puis de politiciens, puis de mémoire, des gels de taxes, ils s'en étaient pas promis en campagne électorale depuis la fusion. M. Leblanc nous propose ça pour l'année prochaine, en 2022. La question qui suit, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2023, en 2024, en 2025? Là, M. Leblanc n'avait pas vraiment de réponse.
Mais en même temps, il peut pas faire le budget pour 4 ans de la ville, mais la question est vraiment là. Si tu gèles les taxes l'année prochaine, vas-tu les augmenter de 6% l'année suivante?
Bien, c'est parce que si on rentre dans la fiscalité là, en campagne électorale, puis on fait miroiter un gel de taxes, il faut, à mon avis, être capable de dire aux électeurs, ben c'est quoi la suite de l'histoire? On peut pas... M. Leblanc peut bien promettre un gel de taxes là, pour l'année prochaine, puis laisser les autres années en suspens. C'est sa campagne. Mais en même temps, les électeurs s'attendent à un peu plus de précision que ça avant d'aller voter.
Ben lui, il dit qu'il va augmenter les revenus de la ville.
Comment?
Il dit qu'il va augmenter les revenus de la ville.
Il dit qu'il va augmenter les revenus de la ville. Encore là, on n'avait pas toutes les informations pour être capable d'apprécier sa stratégie pour augmenter les revenus de la ville. Ce qu'il propose, c'est d'aller chercher un minimum de 10 millions de dollars avec une diversification des revenus en 4 ans. Mais il dit ben, peut-être que ça va être 20 millions, 30 millions, 40 millions, dépendant de la diversification des revenus. Ben, il a ouvert la porte à un gel peut-être pour une autre année, une troisième année. Honnêtement, Michel, on est sorti de ce point de presse-là, puis sur ces questions-là, les questions fiscales, là, c'était pas clair. Pendant le point de presse, M. Leblanc a même changé d'idée, ou en tout cas a décidé d'être plus précis en disant qu'il déposerait son cadre financier jeudi, puis qu'on aurait plus de nouvelles jeudi. Au cours du même point de presse, il disait, ben finalement, pour les années qui vont suivre 2022, on verra. Fait que je te dirais qu'on va attendre de voir comment tout ça va évoluer.
Comme tu dis, comme il dit, on verra effectivement. Écoute, Mathieu, je voulais parler du dépotoir Cook. Dans le fond, je ne veux pas en parler. Je veux mettre ça au chaud parce que demain, je vais recevoir et Mme Bureau et M. Tessier en même temps pour notre face-à-face des sortants. Mais je veux surtout te féliciter parce que c'est une maudite bonne job de journalisme ce que tu as fait cette semaine dans le droit pour mettre au parfum, mettre la population au parfum de ce dossier-là. Et c'est pour ça qu'on a un quotidien dans la région pour fouiller des histoires comme celle-là qui touchent le monde de chez nous. Puis quand on apprend qu'il y a de la boîte à surface d'un ancien dépotoir puis qu'il y a un rapport qui a été déposé il y a 3 ans puis qu'il n'y a pas personne en ville qui est au courant, ça fait pas mal réagir, mais le gars du droit, lui, il l'a mis dans le papier.
Ben merci, Michel, c'est bien gentil. Puis oui, je pense que c'était une situation qui devait être connu de la population, qui aurait dû être connu il y a longtemps d'ailleurs, là, parce que l'information circulait à l'interne à la ville depuis longtemps. Puis on a vu aussi un peu cette semaine les rapports de surveillance du site qui sont encore plus explicites que le rapport de 2017 là, qui est à la base de mon premier texte là, il y a une semaine. Mm-hmm. Donc il y a des gens dans l'administration qui savaient très bien quelle était la situation sur le site Cook. Les experts qui sont dépêchés sur place le répètent année après année que le système est inefficace, voire qu'il représente un risque pour les gens qui se présentent sur le terrain. Je veux dire, quand on est rendu là, il y a un dossier à gérer.
Ouais.
Ce qu'on comprend, c'est que les élus, eux, ont jamais été mis au courant ou on leur a jamais signalé cette situation-là au site Cook. Bon, ça se retrouvait dans des documents. On peut croire que les élus reçoivent énormément de documents. Est-ce que quelques paragraphes concernant le site Cook leur a échappé? C'est possible, mais il y a des gens qui connaissaient cette situation-là au site Cook. Et c'est ce qui fait que y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur la défensive aujourd'hui.
Hey, puis j'ai appris un nouveau mot à part ça, puis tu vas nous le dire en terminant. Du jus de poubelle, Mathieu.
Du lixiviat, Michel.
Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vient d'enrichir notre vocabulaire. Sur ces belles paroles, je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, Mathieu.
Merci, Michel.
Salut. Bye bye. On s'arrête là-dessus. 7h24. Dans quelques instants, les manchettes, Pierre-Jean, et au retour, Benoît Pelletier.